Bientôt, on ne dira plus femme d'agriculteur, mais sans doute agricultrice, c'est-à-dire femme et chef d'exploitation à part entière.
Depuis les années 50, les agricultrices se sont battues pour que leur statut soit enfin reconnu. Trois générations de femmes racontent cette révolution de l'ombre.
Elles avaient droit qu'à travailler.
Un vieux tracteur de 30 ans ici était mieux assuré que moi. Les places, ça se gagne. Si on veut le pouvoir, on y va.
Des années d'après-guerre à nos jours, des pionnières agricultrices vont mener un long combat de l'ombre pour passer de l'invisibilité sociale d'un métier subi à la reconnaissance pleine et entière de leur statut. Trop longtemps considérées sans profession sous la tutelle juridique et économique de leurs époux, des militantes de la première heure livrent le récit intime d'une conquête restée dans l'oubli de l'histoire de l'émancipation des femmes. La nouvelle génération héritière de cette lente marche vers l'égalité des droits témoigne également, bien décidée à garantir les acquis gagnés de haute lutte par leur mère et leur grand-mère. C'est ce que raconte le film documentaire de Delphine Pruneau, Moi, agricultrice, qui était proposée dans la section Autrement vu de la 30e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société, et qui s'est déroulée du 30 mai au 4 juin à Douai. Entretien avec la réalisatrice, qui est également fille d'agricultrice, pour en savoir plus. Interview illustrée par quelques extraits du film. Delphine Pruneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous présentiez votre film, donc, Moi, agricultrice, sur la 30e édition du FIGRA qui se passe à Douai. La conquête des droits des femmes s'est longtemps arrêtée au port des exploitations agricoles. Dans votre film, vous racontez 60 ans d'un combat quotidien pour obtenir une protection sociale et un statut. Et vous êtes petite fille d'agricultrice. Vous partez donc recueillir le témoignage de combattantes rurales de l'émancipation féminine. Et c'est aussi, je crois, un hommage à votre grand-mère, Denise.
Oui, j'ai choisi en fait de rendre cet hommage à ma grand-mère parce qu'en fait, pour moi, elle symbolise en fait toute cette génération de l'après-guerre, de ces femmes qui n'étaient rien, qui étaient totalement invisibles, des travailleuses clandestines et qui évidemment abattaient autant de travail et qui connaissaient autant la pénibilité du travail dans les champs. Et en plus, ma grand-mère n'était pas une femme elle était assez effacée, très généreuse, très chaleureuse, etc. Elle était ce qu'on appelle, d'un mot que je n'aime pas toujours parce qu'il est assez réducteur, mais un peu une taiseuse, mais comme toute cette génération, justement, qui a subi ce métier plutôt que de l'avoir choisi. Et ensuite, j'ai voulu comprendre un petit peu pourquoi, justement, la conquête de ces droits et de ce statut social avait été aussi lente. Et j'ai remonté, en fait, tout le fil de l'histoire en choisissant des figures d'exception. Et c'est vraiment le mot qui convient parce qu'elles n'ont pas été très nombreuses à oser, en fait, revendiquer. Et toute cette histoire a pris plusieurs décennies, en fait.
Ça démarre en 1971, à l'initiative du MLF, hein, le mouvement de la libération des femmes. Elles battent le pavé à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur ce mouvement ?
Alors attention, parce que justement, tout le féminisme en milieu rural, il a mis énormément de temps à s'imprégner. Et justement, quand, en 71, le MLF... défile dans les rues parisiennes ou dans les grandes villes, il n'a pas d'écho en fait dans les campagnes, dans ce milieu conservateur. Et c'est pour ça justement que ces femmes que j'ai choisi de mettre en avant, elles ont été vraiment, encore une fois, des exceptions. Elles ont été insoumises et rebelles parce qu'elles ont osé en fait être un petit peu disruptives, c'est-à-dire qu'elles ont osé revendiquer des droits pour elles-mêmes au sein d'exploitations qui étaient familiales pendant très longtemps, jusque dans certaines régions, jusque dans les années 80, elles vivaient encore sous le régime de la cohabitation avec les beaux-parents. Donc imaginez le long temps d'émancipation qu'il a fallu. Et effectivement, c'est pour moi, en fait, un féminisme en fait invisible. Et ces femmes rebelles, insoumises dans la revendication, elles ont été des féministes sans même le savoir, en fait.
Alors, ce qui m'a fait bouillir, je me revois encore quand le recenseur est venu. Et puis, il faisait son truc, alors tant de poulet, tant de ci, tant de là, fallait tout dire, hein. Et puis, il me dit, et vous ? Vous, je mets sans travail. Je lui dis, comment ? Ah oui. Et non, vous n'avez pas de métier. Je dis, agricultrice, c'est pas un métier. Ah non, c'est pas reconnu comme un métier. Moi, j'ai fait un bon. Et alors, je lui dis au bonhomme, mais moi, je ne mettrai pas ça en SAS, je mettrai CENT, parce que je suis mère de famille, je soigne des poulets, je vais travailler à la mine, je vais travailler. Et c'est pas un métier, ça.
Comme d'autres pionnières, Michou a été décorée de la Légion d'honneur. Une reconnaissance bien symbolique de la République pour celle qui, jusqu'en 2000, a osé dire le dédain politique envers les retraités agricoles.
Alors, j'ai fait des réunions dans tous les départements de France sur ça, où il y avait le préfet, où il y avait le ministre qui était là. Je leur disais, vous avez oublié. Elles sont oubliées, elles sont délaissées. J'ai été la voix des gens sans voix. C'est là que je suis fière.
Alors, parmi ces portraits de femmes, donc, il y a Micheline, qu'on appelle Michou, et qui évoque par cette petite phrase, quand un recenseur lui dit « Pour vous, j'indique sans travail », et elle lui répond « Non, je dirais sans travail ». Alors, sans, C-E-N-T, et non pas S-A-N-S. Parce qu'il pense que, en fait, ce qu'elle fait, c'est pas un métier.
Oui, elle m'a raconté très rapidement d'ailleurs cette histoire dès que j'ai réussi à la contacter. Dès le début en fait de mes recherches, on m'a tout de suite parlé de Michou Marcus comme d'une figure iconique, emblématique en fait de ce combat invisible. Et effectivement, cette rencontre-là avec le recenseur qui fait la tournée des fermes à l'époque, etc., a été en fait le déclencheur de son engagement. Elle était en colère, et j'ai entendu d'autres femmes qui ont vécu, par exemple, quand elles allaient au mariage, assister au mariage de leurs enfants, vous savez, au moment de l'état civil, etc., de la lecture de l'état civil des parents, etc., une autre femme qui me racontait qu'elle s'était levée à 5h30 du matin pour la traite des vaches, etc., et qu'au moment du mariage de son fils à 15h, elle entend le maire lui dire « Monsieur, fils de monsieur et madame un tel sans profession ». Elle m'a raconté qu'en fait, elle était retournée à la ferme, pleurée toute seule dans son coin. Et donc, pour Michou Marcus, qui est vraiment une figure très emblématique, cet instant-là, il est vraiment un marqueur de l'engagement qu'elle va mener pendant plusieurs décennies. Même encore aujourd'hui, alors qu'elle a bientôt 93 ans, elle continue de suivre ce qui se passe pour justement la question des retraités, qui est une question qui reste évidemment très critique.
Il y a aussi un fait marquant, les rencontres avec les jeunes catholiques du village, hein, réunis dans le mouvement des Jacques, les jeunesses agricoles chrétiennes, et ces rencontres vont être déterminantes puisque c'est à partir de là que Micheline, justement, commence à militer.
Alors la JAC, c'est une histoire vraiment là aussi fondatrice de l'émancipation des femmes. La JAC avait été née dans les années 30, mais elle a vraiment connu un essor justement aussi après la Seconde Guerre mondiale. L'idée était venue notamment de jeunes prêtres, de prêtres assez progressistes qui insistaient sur l'idée que on était en période d'exode rural, où les jeunes femmes imaginaient justement avoir une vie meilleure à la ville, et qu'il fallait que les femmes, que les couples, que l'agriculture perdure dans l'après-guerre. C'était une période très importante en plus avec le moment de la modernisation, etc. Et du coup, il y a la JAC a connu une section féminine qui a permis justement à ces femmes qui ne s'autorisaient pas à revendiquer, à parler de leur émancipation, ces groupes féminins, en fait, ont libéré aussi la parole et ont permis plus tard à certaines de s'engager, en fait.
Et puis, ce syndicalisme agricole va donner naissance au CNJA, le Centre National des Jeunes Agriculteurs, et ensuite à la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qu'est-ce qui change à partir de là?
Alors la FNSEA avait créé en fait des commissions féminines dans les années 50 où les femmes n'avaient pas forcément beaucoup de... Elles étaient réduites quand même à des dossiers qui étaient un petit peu subalternes. Il faut quand même ajouter que après 68, et notamment aussi l'épisode, qui n'est pas un épisode, qui est une période de l'histoire très importante, qui est le combat du Larzac, un autre syndicat qui sera reconnu par la gauche en 1981, les paysans travailleurs, qui va donner naissance plus tard à la Confédération paysanne. En fait, et à travers ce maillage-là, certaines femmes y ont trouvé un moyen justement de commencer en fait à revendiquer une place, un statut, des droits. Et donc la période charnière, c'est effectivement le milieu des années 70 et début des années 80.
Le témoignage de Marie-Paul également, qui nous révèle que sa mère n'avait même pas de numéro de sécurité sociale et elle avait celui de son père. C'est un peu incroyable comme... nous, d'une autre génération, c'est bizarre. On trouve ça complètement bizarre.
Oui, et Marie-Paul, là aussi, elle est le symbole d'une histoire, l'aînée d'une fratrie de 10 enfants qui veut, elle, quitter ce milieu parce qu'elle ne supporte pas, en fait, l'idée de ce qu'a vécu, en fait, sa mère. C'est la même... C'est le même déclic aussi pour la génération suivante, donc celle après Michou Marcus, donc comme Marie-Paul, comme Anne-Marie Crollet, qui sont des femmes en fait qui n'ont pas supporté en fait la vie que leur mère en fait ont subie.
Et du coup, il y a aussi peut-être un complexe pour ces femmes de ne pas avoir fait d'études. Je pense notamment à cette scène avec l'émission apostrophe de Bernard Pivot, qui est absolument hallucinante, où on a l'impression que Bernard Pivot, il patauge un peu quand même, quoi, non?
C'est surtout ce qui m'a marqué en fait dans les témoignages de ces femmes, c'est ce que je considère être un peu comme un empêchement social, parce qu'il y avait un mot qui revenait très régulièrement dans les interviews, c'était « je n'ai pas fait d'études ». Je n'ai que mon certificat d'études, je ne suis pas légitime à prendre la parole. Et ça a été très très longtemps un frein. Il y avait comme un empêchement justement à oser revendiquer. Et je pense que, au-delà de l'oubli politique et de l'injustice sociale faite à ces femmes, c'est probablement parce qu'elles n'osaient pas non plus aussi revendiquer à cause de cet empêchement et de ce complexe social que cette conquête a été aussi lente.
Et je me disais, si on obtient des droits sociaux, des vrais droits sociaux, qu'on obtient par exemple un vrai congé maternité, ça veut dire qu'on reconnaît le travail des femmes. Donc après, il faudra bien que derrière, ils nous donnent un statut, qu'on soit reconnu, qu'on ait une carte de protection sociale, notre propre numéro de protection sociale, qu'on soit inscrite à la MSA, qu'on ait les mêmes droits que les hommes. C'est pour ça qu'on s'est bagarré sur le congé maternité. Bon, en plus, c'était quand même nécessaire parce que pendant cet hiver-là, on a fait témoigner des gynécos, des toubibs qui nous disaient que c'était des catastrophes quand même qui s'organisaient comme ça quand il n'y avait pas de congé maternité, quoi, qui voyaient des choses abominables.
Puis il y a aussi cette phrase hallucinante, témoignage d'Anne-Marie, qui va également incarner la lutte des femmes dans les années 80. Sur l'exploitation, un tracteur vieux de 30 ans était mieux assuré que moi en cas d'accident.
C'est effectivement assez choquant, mais c'était la réalité. De la même façon que quand les premiers statuts sont arrivés, il fallait aussi l'accord des maris pour partager les statuts. Quand les premiers statuts sont arrivés, les premières lois ont été votées. Et en fait, on se rend compte que nous sommes dans les années 80, 90, il y avait et il existe encore malheureusement un certain machisme, un conservatisme qui font que les femmes ont eu énormément de difficultés à être considérées à leur juste valeur et à obtenir des droits fondamentaux.
Quelques mots aussi également sur ce qui va changer en ce qui concerne les congés maternité.
Alors le congé maternité, moi, c'est probablement l'aspect qui m'a le plus choqué. Les femmes l'ont obtenu dans leur entièreté seulement en 2019. C'était une lutte incroyable. Et à chaque fois, quand je fais des projections, on me dit, enfin, les personnes n'y croient pas. Enfin, le public que je rencontre, avec qui je discute, etc. Et en plus, il est officiellement inscrit dans la loi et dans la pratique, mais dans les faits, il reste encore difficile pour beaucoup de jeunes femmes d'obtenir un remplaçant ou une remplaçante dans son exploitation pour lui permettre d'avoir un congé maternité tout à fait décent. Et nous sommes en 2023.
On s'est battu notamment avec d'autres copines là, sur le statut des femmes, justement pour essayer de faire en sorte que cette injustice soit corrigée. Moi, j'ai dit souvent, hein, le tracteur, un vieux tracteur de 30 ans ici, était mieux assuré que moi en cas d'accident. Mais c'était complètement débile quand même. Et donc, ça se faisait que on se taisait. Jusqu'au jour où on ne s'est plus tu.
Puis il y a d'autres portraits, hein, celui de Nadège, mère de 3 enfants, qui dirige seule son domaine viticole en Anjou. Monique, Madeleine, Marie-Hélène, en Vendée, hein, qui ont monté à 3 leur élevage de brebis. Et puis Marie-Hélène, qui s'est installée seule à 24 ans, avec un enfant, et qui livre une anecdote qui symbolise d'ailleurs à elle 60 ans de combat pour l'indépendance et contre les préjugés.
Sur ces femmes, alors moi je les ai appelées des résistantes parce que vraiment elles sont en Vendée. Elles entendent un petit peu justement l'écho du MLF et ça les intrigue plus d'ailleurs que ça les intrigue. Et notamment sur toute la bataille autour de l'IVG, etc. Enfin, elles militent dans leur village, ce qui est difficile. Enfin, elles sont confrontées d'ailleurs parfois à des critiques au sein même de leur village. Et mais ce qui m'a frappée chez elles, mais comme la plupart, c'est qu'en fait elles tirent une fierté aussi de l'engagement qu'elles ont eu et de la fierté que leur père, leur mère plus tard leur ont déclaré en fait. Et ça m'a beaucoup touchée.
Et pour terminer, quel est votre regard sur les jeunes agricultrices aujourd'hui qui prennent le relais ?
Elles sont exceptionnelles, déterminées, passionnées plus jamais, parce qu'elles ne subissent pas ce métier, elles le choisissent, et Dieu sait si ce métier reste extrêmement difficile. Maintenant, il y a encore beaucoup à faire pour qu'elles puissent avoir encore toute leur place. Elles ont des difficultés à s'installer. On parlait du congé maternité, c'est pas encore complètement gagné, mais elles sont d'une détermination incroyable, incroyable.
Mon mari, ils reviennent d'une réunion syndicale. Le président leur avait dit, il faudrait que les femmes bougent et qu'elles prennent une position aussi. Il faudrait une femme qui mobilise comme ça, il a fallu qu'il y ait de la volonté qu'il le fasse. Et mon mari, il a dit, oui, j'en connais une, c'est la mienne. Et c'est comme ça. Alors moi, qui venais de râler à cause de ça, on m'a donné un tremplin pour pouvoir défendre notre métier, que j'ai été partante à 100%. Et mon mari m'a toujours poussée.
Cette fermière landaise qui arpente ses terres et pousse ses oies, et la présidente bénévole d'un des groupes féminins de vulgarisation agricole.
En plus de son mandat à la FNSEA, Michou embarque ses amis de la JAC dans ses groupements pour les aider à conquérir une identité professionnelle. Les femmes se forment à la comptabilité, participent à des voyages d'études et prennent toute leur place dans ce métier où il faut bien des bras pour accompagner la modernisation agricole en cours. Sans parler de la révolution de l'habitat, dont elles sont les moteurs pour améliorer leurs conditions de vie.
Moi, je voulais faire avancer le monde agricole. La première chose, sortir les femmes de chez elles, d'abord qu'elles voient autre chose, et leur enlever le manche qu'elles avaient toujours à la main, parce qu'elles avaient autre chose à faire qu'avoir le manche à la main. Et j'étais ravie quand la TVA est arrivée, parce que là, on a dit, attends. Alors nous, on a formé les femmes à fond, à faire la comptabilité, et comme ça, elles ont... Alors je leur disais, vous savez, celui qui tient l'argent, tient le pouvoir.
C'était un entretien avec Delphine Pruneau, réalisatrice du film documentaire « Moi, agricultrice », proposé dans la section « Autrement vu » de la 30e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société, qui s'est déroulé du 30 mai au 4 juin à Douai,